Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme. Les perturbateurs endocriniens peuvent perturber l'action des hormones en diminuant ou en augmentant leur action et induire des effets néfastes sur l'organisme d'un individu ou sur ses descendants. Les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement. Quels sont les effets sur la santé? Quels sont les effets potentiels des perturbateurs endocriniens pour le développement du bébé? Comment limiter les risques pendant la grossesse et après la naissance? Ce sont donc toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Au téléphone de la radio africaine, André Sikolela, merci d'être avec nous. Vous êtes toxicologue, vous êtes président du réseau Environnement Santé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et sur le plateau d'Africa Radio, Agnès Verrier, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée d'expertise en santé environnement à Santé publique France. Allons-y donc, André Sikolela. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ou où les trouve-t-on? Bonjour.
Vous avez repris dans votre présentation la définition de l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Oui.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est face à un problème, effectivement, que l'OMS a qualifié de menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution. Ça n'est pas rien. Il y a un rapport commun OMS et Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Donc, pourquoi? C'est parce qu'effectivement, ça bouleverse totalement les connaissances en matière de risques toxiques. Dans la mesure où, par rapport au vieux, ce qu'on appelle le vieux paradigme, celui de Paracelse, où la dose fait le poison, avec les perturbateurs endocriniens, ça n'est pas vrai. Voilà. On peut avoir des effets plus forts à faible dose qu'à forte dose. On a des effets cocktails qui sont démontrés assez souvent.
Oui.
On a surtout les effets transgénérationnels. Vous voyez, l'exposition, lorsque c'est une exposition pendant la période sensible de la grossesse, va avoir des effets sur l'enfant, mais sur les petits-enfants, et c'est même sur les arrière-petits-enfants. Tout ça a été démontré par l'expérimentation animale, mais on commence à retrouver ces effets chez l'humain. Donc voilà, c'est un problème extrêmement sérieux de santé publique, et c'est important effectivement de s'en préoccuper. Donc, et on peut agir, hein, donc même si le constat effectivement est assez alarmant quelque part, mais on peut agir, donc on peut faire reculer toutes ces grandes maladies chroniques qui explosent un peu partout en France, dans le monde. Je pense évidemment les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les troubles du comportement, l'infertilité. Vous voyez, tous ces problèmes qui sont en partie la conséquence de cette exposition aux perturbateurs endocriniens.
Pourquoi est-ce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui de ces perturbateurs?
Écoutez, oui, ça c'est une vraie question, parce que la notion de perturbateur endocrinien a été créée en 1991. Alors il y a eu quelques années, effectivement, ça a perturbé beaucoup le milieu scientifique, à juste titre, puisque ça bouleversait les connaissances. Mais notamment à partir de la définition de l'OMS de 2002, donc 10 ans, voilà, c'était bien clair que l'enjeu était important. Alors il y a beaucoup d'hésitation en fait encore à agir, parce qu'effectivement ça modifie, regardez la place du plastique, hein, une grande partie des contaminations viennent des matières plastiques.
Oui.
Voyez la difficulté, alors ça se fait, hein, actuellement, on prend conscience effectivement de l'importance de cette contamination par les plastiques, mais ça oblige effectivement à transformer notre environnement, mais tout bénéfice dans la mesure où on peut faire reculer toutes ces grandes maladies chroniques.
Alors justement, c'était la première question, où est-ce qu'on les trouve ces perturbateurs? Alors dans le plastique, mais pas seulement, où est-ce qu'on les trouve?
On les trouve, la caractéristique la plus importante, c'est qu'on les trouve dans l'environnement domestique.
Oui.
On les trouve dans les cosmétiques, on les trouve donc dans la matière plastique, et donc on les trouve assez souvent dans l'alimentation notamment, puisque l'alimentation transformée, étrangement transformée dans des processus qui utilisent des appareils en matière plastique, hein, des tuyauteries notamment.
Oui.
Donc on en trouve encore dans des médicaments, et là c'est beaucoup plus... c'est incompréhensible d'ailleurs qu'on puisse continuer d'utiliser des substances perturbateurs endocriniens dans des médicaments. Le plastifiant notamment des gélules est un phtalate. Dans les cosmétiques, on trouve effectivement les fixateurs pour parfums, ce sont des phtalates.
Oui.
On va les trouver Alors après, tout ça se traduit par une contamination de l'environnement qui, notamment de l'eau, et qui nous revient un peu en boomerang. Voilà, donc on identifie assez facilement effectivement les sources et donc on peut agir.
Alors on voit qu'il y a différentes sources hein, de ces perturbateurs. Alors est-ce qu'on peut les éviter au quotidien? Et si oui, comment?
Il y a une façon déjà très simple d'éviter la contamination, en tout cas de la diminuer. Ça a été montré justement par l'enquête de Santé publique France, l'enquête Esteban. Les logements les mieux ventilés sont là où les gens sont les moins contaminés. Donc vous voyez, ça semble assez de bon sens, et effectivement, c'est vérifié. Donc,
aérer les habitations
régulièrement le matin, mais aussi le soir, parce que effectivement la contamination vient de l'intérieur. Donc c'est l'environnement intérieur. Une source importante de contamination pour les phtalates, qui sont une grande famille de perturbateurs endocriniens, ce sont les sols en PVC. Voilà. Les sols en PVC, ça s'est développé de façon importante au cours de ces dernières années. Il faut effectivement revoir ces sols. Enfin, alors il y a des produits d'emplacement, mais il faut éliminer ceux qui utilisent effectivement les phtalates perturbateurs endocriniens. Mais on a là une source qui est clairement identifiée comme la cause de l'asthme de l'enfant. Oui. L'asthme de l'enfant, ça touche de façon importante des jeunes enfants. Eh bien voilà, on a identifié une cause et donc on peut agir.
Alors, est-ce qu'il y a des sources justement qui sont plus contaminantes que d'autres et lesquelles?
Oui, alors il faut raisonner par grande famille.
On parle beaucoup des produits ménagers par exemple?
Oui, dans les produits ménagers, on en trouve effectivement. Dans les produits de nettoyage, on va trouver la grande famille des perturbateurs endocriniens qui s'appelle la famille des alkylphénols. Mais on sait faire des produits de nettoyage sans alkylphénol. On les trouve dans les revêtements anti-adhésifs aussi, ce qu'on appelle la famille des perfluorés. Donc ça n'est pas vraiment une nécessité d'utiliser ces revêtements anti-adhésifs. On va les trouver notamment sur les cartons anti-taches. Voilà, on a toutes ces sources-là qui sont identifiées et sur lesquelles on peut effectivement agir.
Alors, au niveau de l'alimentation, est-ce que cela représente une part importante de l'exposition aux perturbateurs endocriniens?
Oui, c'est l'estimation qui est faite, mais c'est un peu actuellement une estimation au jugé. C'est qu'effectivement, la principale source serait plutôt l'alimentation, mais après, ça va dépendre effectivement de beaucoup de choses. Et puis, il y a des sources de contamination, notamment, qui sont les sources liées à l'environnement du travail.
Oui.
J'évoque effectivement les produits de nettoyage. C'est sûr que les travailleurs de l'entretien, qui sont souvent des travailleuses, peuvent être contaminés spécifiquement lorsqu'on utilise des alkylphénols dans les produits d'entretien. Il faut aujourd'hui ce qui manque. Ce qui nous manque effectivement, c'est une analyse plus systématique de ces sources, parce que un élément qu'il faut bien aussi prendre en considération, c'est que partie de ces perturbateurs endocriniens sont des substances qu'on sait que l'organisme humain sait éliminer. Je citais les phtalates, on peut citer le bisphénol.
Oui.
Ce sont des substances qu'on élimine tous les jours. Le problème, c'est que, et l'enquête Esteban l'a montré, on a une contamination totale à ces substances. Donc il faut arriver à zéro, c'est possible, mais à condition d'identifier toutes ces sources. Donc ça reste à faire, c'est ce qu'on appelle l'expologie. Évaluer effectivement les sources et agir sur elles, c'est une priorité. Et pour l'instant, on n'a pas assez de réponses dans ce sens.
Alors pour terminer avec vous, quels sont les effets potentiels de ces perturbateurs sur la santé à court, moyen et long terme?
Ah, ce n'est pas les effets potentiels, c'est les effets qui sont clairement démontrés.
Hein. Oui, oui.
Là, j'évoquais l'asthme, par exemple, de l'enfant. On a une grande étude suédoise qui a porté sur 3200 enfants suivis pendant 10 ans, donc c'est considérable, qui montre effectivement que lorsque le sol de la chambre des parents, mais aussi la chambre de l'enfant, est en PVC, eh bien on a un taux d'asthme plus élevé. On a une grande étude aussi a montré un lien entre la contamination maternelle en début de grossesse et les troubles du langage. Ou l'hyperactivité, ou l'obésité, vous voyez, donc ça c'est des études qui sont menées 10 ans, 12 ans après. Les preuves épidémiologiques sont là, or les preuves expérimentales sur la souris et sur le rat sont encore plus nombreuses et vont tout à fait dans le même sens. Notamment, je pense, des études montrant un effet sur la fertilité chez le rat, un effet sur 3 générations. Donc on a là une grande partie de l'explication de la baisse de la qualité du sperme en France, mais dans le monde aussi.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer, une petite conclusion ?
La conclusion, c'est qu'il faut agir. Alors, nous avons, en tant que réseau Environnement Santé, lancé une charte, Ville et territoires sans perturbateurs endocriniens. Oui. Donc, cette charte est actuellement signée par quatre régions, Île-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire. D'autres régions sont en train de se poser la question. Quatre départements, le Tarn, la Haute-Garonne, l'Aude et les Bouches-du-Rhône. 200 villes, donc Paris, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, voilà, mais des petites villes aussi, la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Oui. Voilà, donc c'est une prise de conscience et les élus ont un rôle extrêmement important pour agir et prendre des, notamment via la commande publique, pour protéger au mieux les citoyens. Et puis il y a une stratégie nationale perturbateur endocrinien qui a été adoptée, revalidée plutôt en septembre dernier. C'est une demande que nous avions faite en 2012. Vous voyez, le temps passe, mais on est dans la deuxième phase aujourd'hui. Il y a 50 actions qui sont prévues. Donc il y a un cadre qui permet d'agir et les agences régionales de santé d'ailleurs commencent à agir. Il faut qu'elles se mobilisent encore plus avec les collectivités locales, que les citoyens soient mieux informés, mieux formés, et pour répondre à ce grand challenge. Je pense qu'on est dans cette phase-là. Je crois qu'en même temps, on voit bien l'ampleur du problème, hein. Mais on voit aussi les possibilités d'agir et d'obtenir des résultats. Donc il n'y a pas d'hésitation, il faut y aller.
Voilà. Merci beaucoup de vous être rendu disponible, André Sicolella. Vous êtes toxicologue, vous êtes président du réseau Environnement Santé. Merci de nous avoir apporté vos éclairages ce matin sur l'antenne d'Africa Radio. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.
Entendu.
À présent, Agnès Verrier avec vous. Je rappelle que vous êtes chargée d'expertise en santé et environnement à Santé Publique France. Nous allons parler des risques de ces perturbateurs pour le développement du bébé et des enfants. Alors les enfants, on l'a dit, sont particulièrement concernés. Alors comment les protéger ? Bonjour.
Bonjour. En fait, comme l'a dit André Sicolella, les perturbateurs endocriniens sont absolument partout, à la maison, dans toutes les pièces, dans la cuisine, avec notamment les contenants en plastique, avec des poêles anti-adhésifs qui peuvent contenir des composés perfluorés, oui. Et dans le salon, dans la chambre, etc. Donc, en fait, ce qu'on propose, ce sont des alternatives pour pouvoir substituer l'ensemble de ces produits avec des perturbateurs endocriniens dans la maison.
Oui.
Pour cela, on a développé un site Agir pour bébé, oui. Qui en partie consacre
qui est très bien fait d'ailleurs, puisqu'on entre dans la maison et ça nous permet de cliquer sur les différents espaces et du coup ça nous donne des informations sur les dangers potentiels.
Donc en fait, on a 8 espaces pratiques sur ce site, ouais. Qui permet effectivement de rentrer dans chaque pièce du logement. Et à l'intérieur de ces pièces, vous avez des articles, ouais. Ou des produits, comme une poêle donc anti-adhésive dans la cuisine, par exemple. Et on va vous donner des conseils pour remplacer ou utiliser correctement cette poêle pour éviter justement la contamination par des perturbateurs endocriniens. Comme André Sicolella l'a souligné aussi, il y a le problème des contenants en plastique.
Oui.
Et donc là, on va conseiller pour réchauffer les aliments d'utiliser plutôt des contenants en verre qui sont une matière inerte et qui vont justement limiter la contamination des aliments par des perturbateurs endocriniens.
Donc il faut éviter de chauffer les aliments dans du plastique lorsqu'on les met au micro-ondes, par exemple ?
Tout à fait. Il faut éviter les aliments qui sont en contact avec des contenants en plastique, puisque ces aliments sont chauffés dans ces contenants, vous avez des particules qui vont migrer, du plastique qui vont migrer vers l'aliment et qui vont contaminer l'aliment. Donc après, quand on le consomme, on consomme aussi des perturbateurs endocriniens.
Et comme on parle des bébés, c'est le cas également des biberons, parce qu'il y a des personnes qui réchauffent les biberons au micro-ondes.
Pour les biberons, en fait, depuis 2010... On a supprimé le bisphénol A dans les biberons, puisqu'on a donc identifié que c'était un perturbateur endocrinien avéré. Donc aujourd'hui, on préconise plutôt des biberons en verre.
Ouais.
Où il existe aussi des biberons en plastique qui sont exempts de bisphénol A.
Donc il n'est pas recommandé de réchauffer le lait du bébé, le biberon au micro-ondes.
Non, il n'est pas recommandé de réchauffer, sachant qu'il est préférable d'allaiter son bébé plutôt que d'utiliser un biberon pour l'alimenter.
Alors on parlait du fœtus tout à l'heure. Alors est-ce que le fœtus est particulièrement vulnérable à ces perturbateurs et comment?
Alors en fait, effectivement, comme les perturbateurs endocriniens agissent sur tout le système hormonal, tous les systèmes hormonaux, en fait, une période qui a grand risque, c'est la période de développement de l'enfant. Donc c'est pour ça que aussi la particularité des perturbateurs endocriniens, c'est d'avoir une période de, on a une grande période de vulnérabilité par rapport aux perturbateurs endocriniens qui sont la période du développement de l'enfant.
Ouais. Alors, justement, ces recommandations pour les bébés et les enfants, et puis durant cette période de grossesse, alors comment se protéger contre ces perturbateurs pendant la grossesse?
Alors, pendant la grossesse, eh bien, il faut... D'abord, je rappelle qu'ils sont absolument partout dans le quotidien, donc on ne peut pas tous les éliminer.
Oui.
On va tendre ce qu'on appelle vers une sobriété d'exposition et on va, au niveau de l'alimentation, privilégier une alimentation variée, locale et de saison. On va limiter, si on peut, les produits ultra transformés, les plats préparés, les barquettes, etc. Au niveau des cosmétiques, on va essayer de limiter leur utilisation.
Il y en a dans les fonds de teint, par exemple.
Oui, dans les fonds de teint, dans les vernis à ongles. Donc dans un certain nombre de produits cosmétiques, dans les produits d'hygiène aussi. Donc, l'idée, c'est d'aller vers le plus simple possible avec des produits simples. De limiter l'utilisation, le nombre de produits.
Ouais.
Mais après, si on veut se faire plaisir à une occasion particulière, il faut pas. Enfin, il y a aussi la notion de bien-être qu'il faut prendre en compte et de plaisir. Après, pour les produits ménagers, ben, vous avez des choses extrêmement simples qui peuvent remplacer les produits ménagers.
Le savon noir, par exemple.
Le vinaigre, le savon
vinaigre,
noir.
Le bicarbonate.
Le bicarbonate de soude, etc. On a aussi peut-être la volonté de vouloir toujours tout désinfecter. Donc, un nettoyage quotidien permet aussi de retirer la plus grande partie des bactéries et des microbes qui traînent, par exemple, sur le plan de travail. Après, vous pouvez utiliser aussi des petits nettoyeurs vapeur qui vont permettre aussi de nettoyer.
Sans produit.
Sans produit.
Ouais. Ça fonctionne donc, très bien.
C'est extrêmement simple. Vous pouvez utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain. Et vous avez des petits appareils qui sont à des prix tout à fait abordables.
Alors, justement, concernant les bébés, est-ce qu'il y a des perturbateurs dans les couches?
Alors, l'ANSES a fait une étude sur ce sujet où on retrouve certaines traces de substances chimiques dans les couches. Encore une fois, c'est à chacun de voir, en fonction de l'état des connaissances scientifiques, s'il est utile de passer aux couches lavables, pardon.
Ouais. Il y a de plus en plus de couches qui sont bio ou etc. Je pense qu'il y a une offre qui s'est un peu élargie ces dernières années.
Voilà, et tout à fait. Et c'est à chacun de voir en fonction de ce qu'il peut faire, sachant que l'ANSES a émis un avis sur les couches.
Alors, est-ce que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens ?
Certains pesticides sont effectivement des perturbateurs endocriniens. Alors, le plus médiatisé étant la chlordécone qui a été utilisée
aux Antilles.
Ensuite, il y en a d'autres. De toute façon, perturbateur endocrinien ou non, il est préférable de limiter la consommation d'aliments et imprégnés, contaminés par des pesticides. Donc c'est pour ça qu'on recommande d'avoir une consommation
locale
de fruits et légumes locaux et de saison,
ouais.
Et si on peut, d'aller vers le bio.
Préférer également peler les végétaux qui peuvent l'être. Pourquoi ?
Ben justement parce que les pesticides vont être plus en surface.
Ouais.
Donc si vous achetez des fruits et légumes non bio, d'éplucher et de laver va permettre de retirer les pesticides qui sont en surface. Après, je voudrais revenir sur les fruits et légumes de saison.
Oui.
En fait, le fait de privilégier ces produits, c'est parce que quand on achète aussi des fruits et légumes qui viennent de loin,
oui.
En fait, ils vont avoir davantage de pesticides puisqu'on va rajouter ces produits pour la conservation, pour le transport, pour,
ouais,
le stockage.
Ouais.
Donc c'est pour ça que déjà consommer des fruits et légumes de proximité, c'est déjà important.
Alors, faut-il limiter la consommation de produits de type fast-food ? Est-ce que les emballages justement de ces produits contiennent des perturbateurs endocriniens ?
Alors oui, normalement les emballages en plastique et en carton papier,
carton pizza,
en contact avec le gras peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Après, là, on rejoint aussi la qualité nutritionnelle de l'alimentation.
Ouais.
Voilà, une pizza de temps en temps, pourquoi pas. Mais il faut privilégier une alimentation donc équilibrée et variée.
Alors, pour revenir sur les fruits et légumes, les laver, essayer de se procurer des fruits et légumes bio, de saison, locaux, et les éplucher, est-ce que c'est suffisant ?
Oui, c'est suffisant pour enlever la plus grande partie des pesticides qui sont dans ces fruits et légumes.
Alors, quelles seraient les dernières recommandations que vous avez envie de nous donner ? Quels sont les bons réflexes pour protéger son enfant contre les perturbateurs endocriniens ? Alors, aérer la maison, on a dit que c'était une des premières recommandations, hein, le disait tout à l'heure André Sekolela. Et les autres réflexes à adopter ?
Alors oui, effectivement, il faut aérer. J'insisterai sur le fait qu'il faut aérer été comme hiver.
Puisque, combien de temps ?
Minimum 10 minutes par jour. Après, quand on habite à côté d'un axe routier, on va privilégier l'heure où la circulation est la moins dense.
Ouais.
Mais il est très important d'aérer au minimum une fois par jour.
Toutes les pièces ou juste ouvrir comme ça, enfin.
Alors, en fait, ça c'est la recommandation générale. Mais si on rentre un peu plus dans les détails, quand on cuisine, si on peut, on aère. Si on a une fenêtre, on aère la cuisine. La chambre, il est important normalement d'aérer le matin et le soir. Le matin, parce qu'on a dormi, on a séjourné dans la pièce, donc il y a de l'humidité qui est présente dans la pièce.
Ouais.
Le soir, avant de se coucher, parce que la pièce fermée a emmagasiné un certain nombre de polluants qu'on va évacuer avant de se coucher. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est quand on prépare la chambre de bébé.
Oui.
Donc déjà, la maman, on l'épargne des travaux. Donc comme ça, elle ne va pas s'exposer aux substances chimiques qui sont dans la peinture, dans l'ameublement. Et ensuite, on aère au maximum la pièce pendant plusieurs mois, sachant que bébé doit dormir les 6 premiers mois pas très loin de ses parents.
Oui.
Donc voilà. Ensuite, la recommandation que je ferais pour terminer, c'est que, en fait, il y a un ensemble de conseils qu'on a proposé sur le site Agir pour bébé. Ouais. Et après, libre à chacun, en fonction de ses moyens, de ses envies, de choisir parmi l'ensemble de ses conseils ce qu'il peut adopter pour réduire l'exposition aux substances chimiques.
Voilà, tout est dit. N'hésitez surtout pas à aller sur ce site internet qui est très bien fait, Agir pour bébé, pour en savoir un petit peu plus sur comment essayer de protéger les bébés avant, après, pendant la grossesse de ces perturbateurs endocriniens. Entre autres, il y a d'autres recommandations qui sont très intéressantes, très utiles si vous êtes enceinte ou si vous avez un projet de bébé. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc, d'autres informations également sur internet, le site parents.fr par exemple, le site de Santé publique France également. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, Agnès Verrier. Je rappelle que vous êtes chargée d'expertise en santé environnement à Santé publique France. Merci beaucoup de vous être rendue disponible pour les auditeurs de la radio africaine. La suite dans un instant sera juste après la pause. Ambiance Africa, ça démarre avec 3 heures de programme. Je vous rappelle qu'on retrouve également le journal. Nous rendons à Dakar pour retrouver l'équipe du BBC Afrique pour une synthèse de l'actualité dans quelques minutes. Et puis on retrouve bien entendu les pensées de Fatou dans quelques minutes. Merci de votre fidélité. C'est la pause. On se retrouve juste après pour le journal.